Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Comme tous les samedis matins sur RTL, la télé à la radio, et ça fait déjà plus de 5 ans que ça dure.
Ouais, ouais.
5 ans, c'est bien, mais alors on est très très loin, Jade, de notre invitée du jour.
Ouh là là,
elle, elle va fêter ses 40 ans de télé.
Et pourtant, Eric, tout aurait pu s'arrêter pour elle en 2010. Ce jour où elle recevait Pierre Palmade et que, eh bien oui, le plafond du studio avait failli s'écrouler.
Ça fait peur. On continue.
C'est effrayant.
C'est quoi?
On est en train de chercher.
C'est la guerre?
On peut continuer.
La troisième guerre.
On continue à tourner, on continue à tourner. Voilà.
Attention, Mireille.
Bonjour Mireille Dumas.
Bonjour.
Ce que je préfère dans cette séquence, c'est quand Pierre Palmade vous dit attention Mireille, mais il part en courant,
oui,
et vous laisse en plan.
Oui, exactement. Mais moi, c'est-à-dire que je ne suis pas plus inquiète que ça. On voit que je suis assez inconsciente du danger d'ailleurs, parce que je mets beaucoup de temps à
réaliser. Oui, la professionnelle, on continue à tourner.
Oui, parce que je ne connais. Et en fait, on aurait pu tous mais mourir, puisque c'est carrément le plafond, ça venait d'être construit. C'était des nouveaux studios. Ils étaient construits, le plafond est tombé, s'est écroulé.
Et ça a été après votre départ du studio, c'est tombé.
Que par, vous voyez, les grandes barres qui tiennent
les
lumières, etc. Et, tout. Et après, oui, derrière nous, tout s'est écroulé. On a dû annuler l'émission totalement. Et là, on l'a
vous y êtes jamais retourné dans ce studio?
Et non, vous savez combien de temps? Ils l'ont fermé pendant un an.
Ah, c'est que c'était pas au point.
Pour malfaçon. Tout neuf, le studio. Ah oui, c'était
Mais Mireille Dumas survit à tout, à ce studio, à 40 ans de télé, de changement de direction. Elle est là avec nous. Merci beaucoup d'avoir choisi On refait la télé pour fêter vos 40 ans donc de télé. On va en réécouter quelques grands moments tout au long de cette émission. Et puis, on va parler des deux beaux cadeaux que vous nous faites pour cet anniversaire. Une émission spéciale vendredi prochain sur France 3, les années télé de Mireille Dumas, quand les célébrités se confient.
Et puis, un livre sorti mercredi aux éditions du Cherche Midi, Mireille Dumas, Rencontres inoubliables, qui revient sur vos plus beaux entretiens dans l'émission Vie privée, vie publique. Et on vous le fait gagner, bien sûr, chers auditeurs, dès maintenant, dédicacé par Mireille Dumas sur nos réseaux sociaux.
On rajoute un bout du plafond qui s'est effondré, d'ailleurs.
Oui,
absolument collector.
C'est comme le mur. Compte Twitter et Instagram dont refait la télé.
Archive ou archifaux?
40 ans de télé, ça en fait des émissions, Mireille Dumas. On va voir si vous vous souvenez tout ce que vous avez fait en jouant à archive ou archifaux. Vous nous dites archive si vous pensez que ce que l'on dit est vrai, sinon vous nous dites archifaux.
D'accord. La chanteuse Lara Fabian qui vous révèle avoir eu une relation avec Georges Moustaki, ça existait ou pas, archive ou archifaux?
Oh là 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 là, c'est... J'ai reçu Lara Fabian au début de sa carrière, effectivement. Est-ce qu'elle m'a dit ça?
Lara Fabian et Georges Moustaki?
Non, moi je dirais archifaux. Je l'ai reçu, mais je ne vois pas l'histoire.
Vous avez raison, c'est faux. C'est une autre Lara, c'est Catherine Lara, en fait.
Ah oui.
Catherine Lara qui vous l'avait raconté en 2011 dans Vie privée, vie publique.
Elle m'a dit ça, Catherine.
Oui. Alors, vous racontez aussi avoir eu une aventure avec notre fameux pâtre grec, Georges Moustaki.
Eh oui, le pâtre grec. Le bon pâtre grec, parce qu'il est magnifique, Georges.
Oui.
C'était surtout une histoire d'amitié. Un soir, à force de me faire la cour, il m'a fait le jardin également. Voilà.
Mais oui.
Catherine Lara s'était donc lâchée sur le plateau de Vie privée, vie publique. Elle n'était pas la seule. C'était quoi votre secret pour obtenir toutes ces confidences de vos invités? Vous les faisiez boire? Vous les droguiez avant les enregistrements?
J'ai tenté, mais ça ne marchait absolument pas. C'est la confiance, d'une part, le temps. Parce que si on est en direct pour ce genre d'émission, ça ne marche pas. On va chercher la petite phrase qui tue. Et elle n'aurait pas forcément dit ça, Catherine Lara d'ailleurs. Non, il faut du temps. Et puis,
il y a une rumeur qui dit que les enregistrements de Vie privée et publique duraient plus longtemps qu'une garde à vue, c'est vrai?
Les mauvaises langues. Non, mais ça durait longtemps, oui.
Combien
le double, non, le double du temps.
Ah,
oui.
Le double.
Oui, oui, le double.
Blague à part, ce talent d'intervieweuse qui vous a même valu le titre d'accoucheuse du PAF, Mireille Dumas, il repose avant tout aussi sur un sens de l'écoute que peu de gens ont à la télévision. On le voit bien, généralement, les journalistes à la télévision n'écoutent pas les réponses qu'on leur fait, ils sont déjà sur la question suivante.
C'est cela, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut, absolument sortir des questions que vous avez peut-être en tête ou que vous avez préparées, voyez, sur un listing.
Rebondir.
Il faut rebondir et prendre des chemins de traverse, parce que souvent, c'est là C'est, on ne s'attend pas du tout à cette confidence, à ce propos, et tout à coup, là, on rentre dans quelque chose de très intéressant, et ce qui est bien, c'est d'être surpris quand on est intervieweur. Et puis, moi, l'idée, c'est d'apporter un autre regard sur, sur les personnalités ou les anonymes qui sont en face de moi. Si c'est pour répéter ce qu'on sait sur eux, ça n'a aucun intérêt. C'est de découvrir autrement, changer le regard.
Alors, il paraît que pour privilégier l'écoute, vous avez même renoncé pendant des années à voir correctement. Vous ne mettiez pas vos lunettes.
C'est vrai.
Elle disait bonjour ça... Charles Aznavour à Serge Lama. Elle a eu un problème un jour, elle s'est dit je vais les mettre quand même.
Expliquez-nous ça.
C'était même pas pour priver. C'était. Non, j'avais du mal à porter des lunettes en fait. Vous voyez, maintenant je. Voilà, je.
Vous
je
assumez.
J'assume. Mmh. J'avais du mal à les porter et c'est vrai que cette espèce de vue légèrement trouble me donnait. Il y avait une impression. J'étais dans un univers plus impressionniste. C'est-à-dire que les gens qui étaient très. Les personnes qui étaient très loin de moi, pas celles qui étaient proches, mais celles qui étaient très loin de moi, au bout de la table, j'avais du mal à voir le regard. Vous voyez, et du coup, je me suis aperçue, mais vraiment, que il y avait un potentiel encore plus grand dans l'écoute. Et du coup, je regardais beaucoup aussi la gestuelle, vous voyez, le comportement.
Mais vous regardez beaucoup la gestuelle, vous ne voyez rien. Vous voyez des formes troubles.
Non, parce que je suis, j'étais un peu astigmate, n'exagérons rien.
Ah oui.
C'est un peu arrangé, là, par l'histoire est un peu arrangé.
Allez, autre archivo archifo, Mireille Dumas, un invité qui vous parle de son anatomie la plus intime. Ça existait ou pas, archivo archifo?
Peut-être.
Vous
peut-être.
Avez une idée?
Bah alors, c'est quoi? C'est le sexe, c'est sont les fesses, c'est quoi?
On est dans cette zone, ouais. Non,
alors, c'est Guy Bedos qui vous avait fait une confidence très gênante sur France 3.
Parce que vous n'êtes pas juif pied noir, justement.
Non.
Comme certains. Non.
Mon prépuce est intact, comme vous savez.
Comment ça, comme je sais?
Guy Bedos qui s'était permis de vous taquiner, Mireille Dumas, parce que vous étiez devenus amis en fait.
Mais pas à ce point-là néanmoins.
On a dit amis. Il y a beaucoup d'invités avec qui vous êtes liés d'amitié comme ça.
Quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés plus ou moins proches. Guy Bedos qui se permet justement cette taquinerie et avec lequel d'ailleurs nous sommes, vous voyez, toute notre vie. C'est un ami.
Ah, il vous parlait de son prépuce, mais vous voyez.
Oui, d'accord. Toujours.
Il y a des gens qui...
Et moi, je le voyais, figurez-vous. Et ça a étonné tout le monde autour de nous, parce qu'on était quand même très amis. On se voyait aussi en Corse. Mm-hmm. On se retrouvait aussi dans nos Corses respectives. Et pour autant, le vouvoiement était resté.
Ce matin, on fait la télé de Mireille Dumas sur RTL. À tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart.
Est-ce que parfois vous vous dites que tel homme vient vous voir par curiosité, c'est de vous séduire pour savoir un peu qui vous êtes, justement un homme, une femme?
Ah, très souvent. Je sais que dans le fond, ils veulent passer la nuit avec un mandalire. Parce que je suis un mandalire, parce que c'est par curiosité, parce que c'est pour raconter à leurs copains comment c'était, pour s'en vanter, pour coller ma photo au mur. D'ailleurs, il n'y a rien de plus désagréable, je dois dire, quand on sort du lit et qui vous disent « tu pourrais pas me donner un autographe ?»
Les confidences étonnantes d'Amanda Lear à notre invitée du jour, Mireille Dumas. C'est l'une des séquences du documentaire retraçant vos 40 ans de télé à découvrir vendredi prochain sur France 3. Vous avez été la première à oser parler de sexualité avec des célébrités à la télé.
Oui, alors ça se passe au milieu des années 80.
C'est Sexy Folie, là.
C'est Sexy Folie. Mm-hmm. Et c'est un moment où, effectivement, vous avez des personnalités comme elle. Mais moi, j'ai
Catherine Ringer,
oui,
Laurent Voulzy, Marc Lavoine, Michel Blanc.
Jacques Lang, qui parlait assez facilement. Et moi, quand je m'écoute, franchement, ça a été ça. Je pense ce qui m'a le plus étonnée, c'est que je me suis dit, mais comment je pouvais poser ce genre de questions à l'époque? Vraiment, quelques années après, mais c'était totalement impossible.
Et eux même se disaient la même chose s'agissant de leurs réponses. Parce que quand on leur ressort ces archives aujourd'hui, ils sont légèrement gênés. Hein.
Ah bah oui, ouais. J'imagine. Ce qui était bien à l'époque, c'est que ça reste un moment. Alors qu'aujourd'hui, vous sortez une petite phrase de ce genre, eh bien, ça tourne sur les réseaux sociaux en permanence.
Le générique de Ballet Masque, votre première émission de télé, Mireille Dumas. Vous savez que ce titre, maintenant, il serait plus permis en cette période de pandémie. Hein.
Oui, c'est vrai.
Vous ne pourriez plus. Une émission qui donnait la parole à tous ceux qui ne l'avait jamais eu, que la société avait invisibilisé. C'est un gros succès d'audience qui dure 4 saisons. Oui. Ça s'arrête brutalement. Oui. On dit à l'époque, à cause de l'affaire des animateurs producteurs, sous la présidence de Jean-Pierre Alcabache, pour résumer en gros que l'émission coûtait trop cher. C'est ça la vraie raison?
Ah, mais on a tous, c'est pas l'émission qui coûtait trop cher. Nous, on, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a eu effectivement...
Vous la vendiez trop cher.
Non, mais c'est pas moi. Mais non. En plus, c'est moi qui avais le budget moindre. Non, mais là, je vous donne un scoop. Et à un moment donné... Tout le monde a été arrêté et ça a été très violent. Moi, c'est mon plus grand traumatisme de télévision, c'est l'arrêt de Balai Masque, alors qu'on marchait très bien, que l'émission était à un prix tout à fait normal.
Vous essayez de vous faire entendre à ce moment-là ou pas ?
Mais personne ne vous entend. Ça devient un tel... Vous voyez, les journalistes, non, moi, ils m'appelaient, ils ne m'entendaient pas. Je leur disais... Et il y avait exactement le contraire écrit ou en tout cas pas du tout ce que j'avais dit. Il y avait ce truc-là. Bon, voilà, ça a explosé. On a tous s'était arrêté en même temps. Et je vous disais, c'était le début du mois de juillet. Moi, j'avais une équipe de 30 personnes. Ils étaient déjà partis en vacances. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour maintenir tout ça? Donc, j'ai repris ma petite caméra, tranquille. Et pendant un an, je suis allée tourner Charles Aznavour en Arménie. Et puis, j'ai refait plein de films en attendant que ça passe.
Et c'est passé, mois... voilà.
Bah oui, jusqu'à Pâques, on m'a demandé, tout de suite, on m'a dit, mais ça serait bien quand même de revenir, de revenir à l'antenne dès le mois de septembre.
C'est tout le côté rationnel de ce monde de la télévision, qui est également un monde... de rumeurs. On en a quelques-unes sur vous, Mireille Dumas. On va les vérifier.
J'espère.
Le C'est ce qu'on dit.
Le C'est ce qu'on dit.
On dit, Mireille Dumas, que vous seriez ravie de présenter de nouveau une émission hebdomadaire comme Vie privée, Vie publique. Info ou
un
tox ?
On le dit. Un tox.
Vous ne voudriez pas y retourner ?
Ah non, pas du
vraiment
tout. Mais, ah non, mais vraiment.
Mais pourquoi ?
Ça fait plusieurs années que je le dis, mais parce que ça y est, c'est fini. Moi, ça s'est arrêté en 2014, je crois. On m'a proposé plusieurs reprises ou de reprendre une émission. On m'a même demandé de temps en temps des copains d'aller chroniquer, etc. Franchement, c'est fini.
L'antenne, ça vous manque pas du tout?
Non, mais pas du tout, du tout. Quand ça s'est arrêté, donc vie privée, vie publique, ça m'a manqué. C'était franchement, on va dire que la première année, quand surgissaient dans l'actualité des thèmes, enfin, il se passait des choses qui m'intéressaient, je me disais flûte. Et peu à peu, ça s'est estompé parce que je suis revenue à mon métier de documentariste où vous prenez le temps de tourner, de monter. Vous êtes dans un autre temps. Il n'y a plus le stress de l'audience, enfin, des audiences le matin. Et maintenant, je suis très, très... Franchement, je suis tranquille et je suis bien, quoi. Je suis vraiment... Enfin, quand je dis bien, c'est que j'ai l'impression de m'être aussi récupéré.
Doit-on comprendre en creux, quand vous dites « je suis tranquille et je suis bien », qu'à l'époque, finalement, vous n'étiez pas si tranquille et pas si bien? C'était une très forte pression sur vous?
Oui. J'avais l'impression, d'entrer en septembre, vous voyez, dans une espèce de tunnel qui vous conduit jusqu'à l'été. Vous arrêtez un petit peu comme ça en cours d'année, mais c'est un peu du touche-housse. Et parfois j'ai oublié de vivre. C'est ce temps de vivre.
Vous parliez de la vie des autres, mais vous-même, vous en aviez
beaucoup. Ça m'a appris beaucoup. Et maintenant, quand je me retourne, je me dis, mais franchement, non, je suis contente parce que quand on fait cette émission, je me dis, bon, voilà, ça a servi à quelque chose. En même temps, ça prend du temps sur votre vie.
Alors, en effet, vous avez été témoin de très grands moments de sincérité dans vie privée, vie publique. On se souvient notamment des révélations hilarantes du grand Michel Galabru sur sa filmographie.
Disons que pour, de façon alimentaire, j'ai joué beaucoup de films navets, dont j'étais parfaitement conscient, alors que les camarades qui jouaient avec moi ne l'étaient pas.
Mais bien joué, bien patiné.
Mais à chaque fois que vous avez tourné ces films, c'était en vous disant « je mets de l'argent de côté pour mes enfants ». C'était calculé à ce point-là?
Non, malgré, on ne peut pas calculer ça. On a les impôts qui disent « monsieur, si le 15 vous n'avez pas payé, je vous saisis votre mobilier. Allô, voulez-vous tourner une merde ?» Oui.
Grandiose.
Allez, autre rumeur, autre « c'est ce qu'on dit ». On dit, Mireille Dumas, qu'une fois vous avez été prise d'un fou rire très gênant lors d'une interview.
Oh là là.
C'est vrai?
Oui. Mais c'était horrible.
C'est
un souvenir, franchement, je ne le souhaite à
personne. Expliquez-nous.
Ah, je vous explique, c'est incroyable. J'étais très malade. Très malade, j'avais une énorme bronchite. J'avais 39, plus de 39. Il fallait absolument tourner. Et c'était une émission avec c'est dans Les Masques, des femmes qui sortaient de prison, qui étaient en face de moi, donc sujet, on ne peut plus
plutôt
grave.
Lourd, ouais.
Et comme j'étais, voilà, je toussais en permanence, enfin bon, j'avais apporté une bouteille de sirop dont je ne dirai pas la marque, que j'avais posée sous mon siège, et que j'ai bu tout au long de, je buvais, mais comme du petit lait, tout au long de l'entretien.
Ça a pris de la drogue, en
fait. C'était,
mais ce sirop, il contenait quelque chose de très fort, c'est ça?
Très fort, oui, plein de trucs, je ne vais pas dire, plein de choses dedans.
Molécule.
Non, mais plein de choses dedans. Et tout à coup, mais c'est comme dans les dessins animés, vous savez, d'un seul coup, vous avez des éclairs qui sortent, là, et je me suis mis une crise de fou rire, on ne pouvait plus m'arrêter.
Les invités disaient, elle est folle.
Mais c'était horrible, vous imaginez, face à ces femmes et tout, les pompiers sont venus me chercher.
Ah oui.
On m'a sorti. Non, mais c'est vrai.
Ah oui, tout de même.
J'ai été évacuée.
Mais vous aviez bu combien de litres de ce sirop?
J'ai bu une bouteille.
Alors évacuée. C'est une cuillère à soupe par jour, normalement, grand max.
Voilà, c'est ça, c'est deux cuillères. J'ai bu ma bouteille au boulot, personne ne m'a. Mais j'étais carrément, mais droguée, défoncée, totale.
On n'osait pas le dire, mais c'est ça.
Mais oui, mais si, c'est ça. Mais il faut le dire, il faut mettre des mots, sinon c'est pas drôle.
L'entourage, à ce moment-là, comprend qu'il se passe un truc.
Écoutez-moi bien, parce ils m'ont emmené évacuée dans la petite salle de maquillage qui était juste à côté, c'est un petit studio et tout. Donc ils m'ont allongée, on me mettait de l'eau, etc. Et je continuais à rire. Et les femmes qui étaient en plateau, tout le monde m'entendait. Continuait à rire. C'était épouvantable. Il m'a fallu plus d'un quart d'heure, 20 minutes pour redescendre avec de l'eau, de machin et tout. Je me suis excusée, vous imaginez, enfin, platement et tout. Et je pense, malgré les excuses, malgré tout ce qui s'est passé, je suis sûre qu'elles ne l'ont jamais compris.
On va rester dans les substances euphorisantes avec ce dernier, c'est ce qu'on dit.
On dit que vous étiez un peu pompette quand vous avez présenté l'Eurovision avec Cyril Ferraud en 2012.
Il y a eu du cocktail apparemment qui a été consommé avant l'Eurovision.
C'est Cyril qui a dit ça.
Bah, c'est vous. Bah, vous, on ne se souvient même plus tellement c'était fort.
On a retrouvé des séquences de cette édition de l'Eurovision qui montrent bien en effet que ces cocktails vous avez mis dans tous vos états.
On a compris que c'était le pays du feu. Hein.
Waouh, waouh, waouh.
Regardez James Bond qui arrive du
ciel. Mais non, c'est Johnny qui vient allumer le feu. Je n'avais rien compris.
Bravo Mimi, attention.
Johnny, réfugié en Azerbaïdjan, vous vous rendez compte?
Nous avons perdu Mireille Dumas. Et voilà, 372. Ce qui veut dire que c'est la Grèce qui remporte ce 57e.
La Suède,
mais malheureusement, ça va pas bien.
C'était fort les cocktails, hein. Pour se tromper sur le nom du gagnant, faut y aller. Hein. En parlant d'Eurovision, vous savez que l'Eurovision Junior aura lieu le 19 décembre en France. On a appris que ce sont Olivier Mine et Élodie Gossuin qui présenteront cette émission diffusée dans toute l'Europe. Stéphane Bern et Laurence Boccolini, eux, assureront les commentaires pour la France. Ce sera donc le 19 décembre. D'autres actus télé à suivre dans deux minutes avec Germain Sastre qui nous rejoint en studio. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
L'actu télé de la semaine, c'est avec Télé Loisirs et bien sûr Germain Sastre. Bonjour Germain.
Bonjour Éric et Jade, bonjour Mireille, bonjour à tous.
Bonjour Germain.
Vous Mireille bien. Dumas, vous qui avez le coup d'œil, qu'est-ce que vous devinez de la personnalité de ce garçon en le regardant comme ça? Vous le sentez équilibré, plutôt fragile?
Il a besoin d'un peu de sirop codé.
Oui, j'en veux bien.
Non, il a pas besoin de ça. Il est tombé dedans petit lui aussi, c'est comme Obélix. On va vous faire jouer un petit test, un petit quiz Mireille Dumas. On vous donne de vraies infos, mais aussi parfois de vrais mythos désintox. Vous nous dites si vous y croyez ou pas et ensuite Germain corrigera.
Après la boîte à secrets, Faucine Bollard présentera bientôt la boîte de nuit, une émission de danse. Mireille Dumas, vous y croyez ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous avez raison Mireille, c'est faux. Effectivement, elle présentera bien une émission où l'on dansera, mais ça ne sera pas un concours. En fait, il s'agira de cette émission de rencontre basée sur la danse dont on avait parlé ici il y a quelques temps, l'adaptation d'un show américain. Et c'est donc Faucine Bollard qui a été choisie pour incarner la version française qui s'appellera Un flirt, une danse. Alors le concept, je le rappelle, des célibataires vont apprendre une chorégraphie adaptée à leur personnalité et à leur histoire et c'est une fois sur le plateau, en public, qu'ils découvriront leur partenaire afin de danser ensemble et faire connaissance. Ils devront ensuite décider s'ils veulent se revoir ou non. 6 couples seront formés dans chaque émission qui accueillera aussi 3 célébrités et les premiers numéros seront tournés dès lundi.
C'est le principe du thé dansant.
Oui, voilà.
C'est un thé dansant, vous avez raison. Moi, je sais sur quelle chanson il faut les faire danser pour que ça devienne un peu chaud. Tomber la chemise de Zebda, votre groupe préféré, Mireille Dumas.
Je rappelle que vous êtes chanteur dans le groupe Zerba.
Zebda.
J'ai mis une petite absence ou pas ce jour-là? Non. Ouais, des moments décroche,
en préparant l'émission, je me disais surtout ne pas dire
Zerba.
Vrai, vraiment, j'étais là, Zorba.
Faut jamais faire
ça. Surtout. Et au moment de le dire, c'est Zebda, Zerba. C'était très, très drôle. C'est drôle parce qu'on a. Après, après, c'est pendant un quart d'heure, on a eu des crises de fou rire. Il ne pouvait plus lui reparler.
Ah bah oui, oui, forcément. Imagine. C'est pas tous les... Monsieur Zerbin.
Ouais. Monsieur Zerbin.
Allez, autre info télé à vérifier.
France 3 diffusera bientôt un documentaire sur Nabila. Mireille, vous y croyez ou pas?
France 3 sur Nabila?
Oui.
Ah non, c'est pas possible.
Non plus.
Non, je vois pas du tout. Non, je vois pas.
Là aussi, vous avez raison. C'est faux. Ce n'est pas France 3, mais Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon, vient d'annoncer la diffusion dès vendredi prochain d'une série documentaire en 7 épisodes sur la vie de Nabila. Donc, son titre, Nabila sans filtre. Alors, la star des réseaux sociaux. Pour une fois, c'est vrai. La star des réseaux sociaux.
La première fois, d'ailleurs. Oui.
La star des réseaux sociaux racontera son parcours de ses débuts dans la télé-réalité à sa carrière de chef d'entreprise. Elle y dévoilera aussi sa vie de maman, mais aussi les coulisses de son mariage. Elle reviendra même sur le cambriolage dont ils ont été victimes ce jour-là. Bref, Mireille, vous saurez tout sur la vie de Nabila et c'est à découvrir vendredi prochain sur Prime Video.
J'ai 6 millions de personnes qui me suivent, je suis influenceuse. J'aimerais montrer vraiment qui je suis. Je reviens de très loin.
Nabila était mise en examen.
J'avais 20 ans, tout le monde disait que j'étais bête. Aujourd'hui, j'ai ma marque cosmétique. J'ai monté un empire.
Mireille Dumas, ça vous intéresserait d'interviewer Nabila?
Mais je vais vous dire, c'est très loin de moi tout ça, mais oui. Mais oui, parce que c'est quand même très, c'est passionnant comment elle s'est, parce qu'elle est très maligne quand même, elle est rusée, et donc la façon dont elle se construit, dont elle, d'ailleurs, elle a compris comment faire, elle devient donc une femme d'affaires, c'est intéressant, mais pas forcément ce que j'entends là.
Ce serait pas le même exercice sans doute que celui qu'on va découvrir sur Prime.
Non, mais ça serait bien de la voir autrement. Voilà,
c'est... L'invitation est lancée.
Oui, non, mais.
Donc vous allez aller à Dubaï. Hey, en frais de société, 3 semaines à Dubaï, bim.
Tout le monde va à Dubaï, non? Tous les influenceurs sont là-bas.
Ils sont tous là-bas.
Ils sont tous là-bas. Ouais. Hein. C'est, on se demande ce qu'ils font là-bas d'ailleurs.
Ils influencent.
Au soleil.
Allez, dernière info ou dernière intox.
Laurence Boccolini va présenter un grand jeu de Noël sur France 2. Mireille, vous y croyez ou pas?
Un grand jeu de Noël. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi bien pas. Sûr, ça c'est semble vrai. Possible.
Ouais, effectivement, oui. C'est une bonne réponse. Le grand jeu de Noël chez Boco, c'est le nom de ce divertissement dont le tournage aura lieu jeudi prochain. L'animatrice recevra 8 personnalités dans un chalet qui joueront en équipe au profit de 2 associations. Une soirée au cours de laquelle des artistes viendront aussi reprendre des chants de Noël. Et puis toujours au chapitre Mon beau sapin, c'est le retour dès aujourd'hui de la chaîne éphémère du Père Noël sur la TV d'Orange. Au menu, des séries, des films ainsi que des ateliers pour préparer les fêtes.
Merci beaucoup Germain Sass. Vous avez déjà fait votre lettre au Père Noël ou pas?
Oui, je l'ai faite. J'ai demandé à ce que vous remplaciez Eric Jade.
Ouais, bah donc cette lettre n'arrivera jamais à destination. Oh. Orphée la télé revient dans un instant avec Mireille Dumas qui se demande où elle est tombée. Bah c'est ça, c'est Orphée la télé. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric Dussard.
Le zapping de la semaine, c'est ce qui vous attend dans Refait la télé. On va notamment revenir sur le déménagement le plus commenté de France, celui de Stéphane Bern.
Ah,
Mireille Dumas nous dira ce qu'elle en pense. Merci d'être avec nous, il est midi.
Merci Sébastien. Jusqu'à 12h30, on refait la télé avec une journaliste qui fête ses 40 ans d'interview télé. 40 ans d'émotions, de confidences, mais parfois aussi des échanges sportifs. Comme avec Bernard Tapie.
Moi, à un moment donné, c'était too much, c'était insupportable. Il est président de l'OM, il est ministre, il a acheté Adidas, il a un bateau. Il ne voudrait pas qu'on l'aime en plus, non?
Non, Bernard Tapie, je suis d'accord, mais là, c'est un peu facile. Au début des années 80, vous avez... Si je puis me permettre, je demande le droit de parler, Bernard Tapie.
Mais dans les années 80...
les années 90, une image ternie,
mais non,
c'était l'argent facile, je vais
vous
la corruption,
les,
etc.
La vérité sur Tapie, il y a une partie de la France qui me détestait en disant que j'étais un escroc. Et l'autre partie de la France qui m'aimait bien en disant que j'étais un escroc. En gros.
Il fallait être en forme pour interviewer Bernard Tapie.
Il fallait être très en forme. Oui, oui, puis il avait les formules.
Il faisait partie des gens assez difficiles à attraper qui ne sortaient jamais de leur rôle. Il y en a eu d'autres, j'imagine.
Et Bernard Tapie est d'autant plus resté dans son rôle qu'il était, dans cette table où vous avez plusieurs, cette grande table où j'avais plusieurs invités.
Ah oui, plusieurs invités.
Je pense que j'aurais gagné à l'avoir en tête à tête. Est-ce qu'à l'époque il n'avait pas voulu, je sais pas. En tout cas, ce qui est marrant avec Bernard Tapie, c'est que c'est lui qui m'a interviewé au début des années 90 dans une émission qui s'appelle Rien à cacher. Et c'était, j'ai découvert ça. C'est lui qui posait les questions et moi j'étais l'interviewée.
Il a été animateur aussi.
Mais hein. Oui, ouais, mais bien sûr, ouais. Bien sûr.
On va revenir à la télé de cette semaine.
Le zapping de la semaine.
Une info incroyable, Mireille. Stéphane Bern quitte Paris. Vous le saviez ?
Mais j'ai vu ça.
Il ne supporte plus la vie dans la capitale, un déménagement dont on a beaucoup parlé cette semaine et notamment sur la chaîne CNews.
Le ras-le-bol de Monsieur Patrimoine, Stéphane Bern, explique dans les colonnes du Parisien pourquoi il va quitter Paris.
10 ans de vie parisienne lui ont suffi. La saleté, les chantiers, le bruit, la violence, autant de raisons qui ont poussé l'animateur très impliqué dans la sauvegarde du patrimoine à délaisser Paris pour le perche. Il ne mâche pas ses mots. Paris est devenu une poubelle où les gens se débarrassent de tout, n'importe où et n'importe comment.
Paris est devenu une poubelle.
Mais
vous qui avez suivi le quotidien des éboueurs de Paris l'an dernier, vous êtes d'accord avec lui ?
Ça s'appelait « Des ordures et des hommes », hein, le film que j'ai fait il y a 2 ans, le documentaire. Bah oui, il a raison, parce que on est d'une incivilité, les franciliens, qui est, je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la France, mais c'est épouvantable. Moi, ce que j'ai filmé, et puis même les lendemains des fêtes où tout le monde jette tout par terre, ça part dans la Seine, partout.
Ce que vous avez vu sur le tournage, c'est que les gens, en fait, font un peu n'importe quoi.
Ah bah oui, non, mais c'est, vous imaginez, ils jettent parfois, moi, les éboueurs, ce qu'ils m'ont raconté, c'est vraiment, ils se promènent et les gens leur jettent les cigarettes même aux pieds, ou vous voyez, jettent en disant tu es payé pour ça, ramasse.
À ce point-là ?
Ah oui, à ce point-là. C'était très, très, très violent ce que j'ai. Et ce que j'ai filmé, c'est stupéfiant. Oui, parce que tout le monde jette en se disant, ils vont ramasser. Et ça, c'est quand même assez particulier à la France. Puisque quand je tournais, il y avait des personnes qui arrivaient d'Italie ou d'Espagne et qui nous racontaient qu'il n'y avait qu'en France, que les rues étaient aussi sales. C'était vraiment la France, pas uniquement Paris.
Alors, pardon, petit rectificatif, je parlais d'éboueur à l'instant. En fait, j'ai commis une erreur, hein, je crois.
Mais oui, Eric, voyons, vous savez très bien qu'il ne faut pas dire éboueur, mais comme cette candidate du dîner presque parfait sur
W9. Faire des déchets, pour moi, ça crée de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je jette, y a des gens qui ont le métier de poubellier, quoi.
Poubellier, en plus, ouais, c'est sûr,
c'est super métier. Ils sont hyper contents, les gens qui ont un travail.
Bah oui, Clara, elle a son dictionnaire bien à elle.
Je suis beaucoup plus carnivore que poissonivore. L'Écosse, donc ça me fait penser à l'Amérique, puisque c'est les îles en Amérique centrale.
Ça, c'était un petit extrait du dîner presque parfait.
Oui, vous pourriez participer à ce dîner presque parfait. Est-ce que vous savez aussi bien cuisiner les plats que vos invités ?
Ah, mais pas du tout, justement. Alors, oh, je suis une piètre cuisinière.
C'est quoi votre plus beau plat ? L'œuf à la coque.
Coquillette au beurre.
Ah, écoutez, moi j'ai un mari qui cuisine pour moi depuis la nuit des temps. Donc j'ai essayé au début. J'ai mis du mien, j'ai commencé tout. Il a trouvé ça absolument dégueulasse.
Ah oui,
je crois que c'est ce qu'il m'a dit. Et il a dit je vais m'en occuper. Je lui ai dit mais c'est très très bien.
On va terminer le zapping de la semaine avec En aparté, cette émission de Canal+, où l'invité se retrouve seul dans un appartement.
Oui, l'intervieweuse Nathalie Lévy n'est pas avec lui, pas avec l'invité. Elle lui pose ses questions via une oreillette. Un dispositif qui amène les invités à se livrer comme lundi soir, quand Julien Doré a parlé de Sharon Stone.
Sharon Stone rencontre au Festival de Cannes 2009, complètement bouche bée, en vous entendant chanter.
C'est marrant que vous me disiez ça d'ailleurs, parce que j'avais d'ailleurs cherché, alors pour un autre clip, à la contacter. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé sur son Instagram, et je me suis dit, oh quand même, avec l'histoire qu'on a, Sharon doit me suivre. Et non, en fait...
Attendez, elle vous follow ou pas ?
Non, Sharon ne me follow pas. Mais je suis tombé sur d'autres chanteurs de la chanson française.
Et donc ?
Ben donc ça m'a vexé quand même.
Vous êtes comment Mireille Dumas quand vous regardez les émissions d'interview des autres ? Vous laissez prendre au jeu ou la professionnelle ne peut pas s'empêcher d'analyser et dire mais non, il fallait aller sur cette thématique, pas cette question ?
Ah non, je me laisse prendre au jeu et si l'interview est mauvaise, alors là oui je...
Vous êtes comme les supporters de foot devant la télé.
Je m'énerve, je dis mais franchement, enfin voilà, franchement, je dis enfin là la question. Bon, bien sûr, et quand c'est trop difficile, je zappe. Ça m'arrive.
Mireille Dumas, les audiences, ça vous mettait la pression ou pas ?
Oui, bien sûr.
Ça faisait partie des choses que vous redoutiez un peu ?
Oui, toujours. Quand on est animateur d'une émission, vous savez très bien que c'est quand même important.
Hein. C'est le prix de la tranquillité.
C'est le prix de la tranquillité, si oui, et le fait que l'émission soit reconduite ou non, quand même. C'est à la fin d'une saison, c'est quand même l'audience.
Tout le monde ne sait pas comment ces audiences télé sont calculées. On va expliquer ça justement dans un instant. Comment sont calculés ces chiffres si redoutés ? A tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le plateau télé de l'invité.
Mireille Dumas, on a très envie de savoir ce que vous allez regarder à la télé dans les jours qui viennent.
D'accord.
On propose, vous disposez.
Alors par exemple, ce soir, vous vous laisserez plutôt tenter par un épisode de la collection Meurtra avec Lynn Renault, c'est sur France 3. Vous aurez plutôt envie d'une série sur Netflix.
Oh, c'est compliqué, vos questions.
Ah, il faut choisir, Mireille, c'est comme ça.
Quand on est corporate, on dit meurtre.
Sinon, il y a meurtre,
avec effectivement. Avec Lynn, que j'aime beaucoup et que je salue.
Mais, bon, on va dire meurtre, alors.
Mais meurtre, ouais. Allez, on
mais dit, vous les regardez beaucoup, dit... ces séries Netflix, Amazon Prime.
De temps en temps, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mmh. Puis pendant le confinement, c'est surtout là que j'ai commencé à regarder quelques séries sur,
vous voilà,
sur les plateformes. Oui, j'avais un peu plus de temps. Mmh. Oui.
Ces plateformes de streaming, ça pourrait vous offrir de nouvelles perspectives pour vos documentaires aussi, parce qu'on peut y faire plus de choses que sur la télé classique.
Oui, non, parce que moi, je n'ai pas à me plaindre. Ce que j'ai voulu faire jusqu'à présent, j'ai pu le faire dans une grande liberté. Mais c'est autre chose. On peut prévoir peut-être d'autres formats.
Allez, on retourne à votre plateau télé.
Lundi soir sur M6, ce sera L'amour est dans le pré. Peut-être que vous préférerez sur C8 un film en première diffusion à la télé, Le Retour de Don Camillo avec Fernandel.
Oui, je crois que c'est une émission.
Mais tout à fait, c'est C8, évidemment, c'est direct. Mais direct, attendez.
Don Camillo, vous étiez toute petite, Mireille Dumas. Comment vous étiez à l'école? Vous étiez du genre déjà à écouter les confidences de vos amis, leur peine de cœur, leur chicane?
Pas du tout. Non, parce que vous savez, dans le fond, l'intime pour l'intime ne m'intéresse pas. Hein. Ne vous y trompez pas. Ce sont des portraits, l'intimité, mais aussi la place de quelqu'un dans la société, ses engagements, sa création, sa créativité. Enfin, c'est tout un ensemble.
Alors, c'est la globalité.
C'est la globalité.
Regardez le commérage ne vous intéresse pas.
Non, et regardez par le trou de la serrure non plus. Ça ne m'intéresse absolument, absolument pas. Mais quelle petite fille j'étais. J'étais une petite fille très timide en plus.
Petite fille très timide, mais qui a failli mettre le feu à son collège en fumant un cigare dans une classe.
Eh ben, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez, à discipliner quand même. J'étais interne et quand on est môme, c'est vraiment la première cigarette.
Et là, c'est un cigare. C'est, voilà.
Et là, moi, j'avais piqué, figurez-vous, parce que j'avais piqué un cigare à mon frère. Je m'en souviens, en rentrant le week-end, j'étais interne. J'avais piqué un cigare et on s'était caché sous un bureau. On était 2-3. Sous le bureau, en train de vous imaginer.
C'est bien, ça sent pas le cigare.
Voilà. Oui, il y avait des gros nuages de fumée qui
sortaient. Pas discrète, quoi.
Pas discrète.
De toute manière, vous êtes plutôt du genre un peu Madame Catastrophe, Mireille Dumas, non? J'ai aussi lu que vous aviez été virée d'un job d'été de vendeuse dans une boutique de vêtements.
C'est moi qui l'ai raconté, c'est tellement drôle.
Vous aviez fait une petite gaffe avec la cabine d'essayage, c'est ça?
C'est ça. En tirant le rideau, c'était un job d'été, et en tirant à Marseille, je tirais le rideau pour que la dame se déshabille, et j'ai tiré trop fort, donc j'ai emporté le rideau et tout, elle a crié, puis à la fin de la journée, on m'a dit au revoir mademoiselle.
Elle était en petite tenue devant tout le monde.
Je sais plus.
Déjà à l'époque, vous déshabillez les gens, Mireille Dumas.
Oui, vous vous rendez compte, hein, ça commençait tôt l'histoire.
On parlait il y a un instant de L'amour est dans le pré.
Oui, mais l'amour était souvent sur le plateau de Vie privée, vie publique. De nombreuses personnalités vous ont confié leurs histoires de cœur. Hugo Frey, par exemple, il avait été d'une franchise assez incroyable.
Je peux l'avouer, je n'étais pas un mari très, très fidèle. Je suis marié avec une femme que j'ai connue quand j'avais 18 ans.
Mais pardon,
et j'ai une jeune femme dans ma vie aussi.
Ah.
Et qui est jeune et belle.
Mais vous pourriez tomber amoureux d'une femme de votre âge? En dehors de votre épouse, vous pourriez avoir un coup de foudre pour
non.
une femme de votre âge?
Impossible. Non, parce que ça serait tromper ma femme.
Ah ouais, elle est bonne, cette réponse.
L'argument est impayable. Hein.
Impayable.
Bon, il n'était pas le seul à hisser haut en dehors de son couple, Hugo Frey. Enrico Macias aussi vous a parlé de ses infidélités, Mireille Dumas.
Ah, c'est oui. Un moment qui, franchement, qui m'a fait rire. Et quand j'y repense, ça me fait toujours rire quand il en parle, évidemment.
Vous deviez être la première étonnée qu'ils osent faire des confidences pareilles à la télévision. Ils oubliaient parfois que ça allait passer à la télé, ce qu'ils disaient ou pas?
Oui et non. Non, non, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, il y a un moment où on peut tout se permettre et évidemment les épouses le savent quand ils le disent.
Ça ne mais elle ne le découvrait pas à la télé.
Non, elle ne le découvrait pas à la télévision.
Il y aurait eu des drames.
Voilà. Oui. Bah, sinon, ça, c'est justement de choses dont on parlait après. Est-ce qu'on laisse ou pas? Mais évidemment.
L'actu média de la semaine, c'était aussi, on l'a dit, la publication des audiences radio. L'occasion de vous expliquer comment se calculent cette fois les audiences télé.
Mais oui, car pour beaucoup, ça reste un grand mystère. Alors aujourd'hui, vous allez tout savoir grâce au décodeur de Télé Loisirs. Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Jade, bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Première question qu'on se pose tous, est-ce que tous les téléviseurs enregistrent ce que nous regardons pour calculer l'audience ?
Eh bien non, hein. Contrairement à une idée reçue, toutes les télévisions des Français ne sont pas équipées d'un mouchard médiamétrie cible. Seulement quelques milliers de foyers, mais pas question évidemment de laisser faire le hasard. Hein. Ces panélistes sont choisis de manière à être parfaitement représentatifs de la population, en termes d'âge, hein, de sexe également, de catégories socio-professionnelles. Un petit peu, vous savez, hein, à la manière des sondages politiques, on les équipe ensuite d'un boîtier, avec plusieurs touches, hein, une pour chaque membre de la famille. Donc quand vous rentrez dans la pièce, il suffit d'appuyer sur la touche, puis de réappuyer sur cette touche lorsque vous sortez de la pièce, ce qui signifie, précision très importante, que les pauses pipi et toutes les activités en dehors de la pièce, eh bien, ne sont donc pas comptabilisées dans l'audience.
Évidemment, l'identité des panélistes doit à tout prix rester secrète.
Ah oui, imaginez la catastrophe, hein, si cette précieuse liste de panélistes tombait par exemple entre les mains d'un patron de chaîne de télévision. Il lui suffirait, ça serait très simple, hein, d'aller soudoyer les membres du panel pour faire gonfler artificiellement son audience. D'ailleurs, petite précision, hein, si vous travaillez dans les médias, dans le secteur de la télé notamment, vous ne serez évidemment pas sélectionné, hein, car Médiamétrie ne peut pas prendre le risque d'un quelconque conflit d'intérêts. Cette liste est donc, vous l'avez compris, hein, le secret le mieux gardé de Médiamétrie. Quant aux panélistes, évidemment, interdiction pour eux de se vanter de leur statut, notamment sur les réseaux sociaux, sous peine d'être immédiatement débranchés.
Merci beaucoup, Rémi Jacob. Je voyais le sourire Mireille Dumas. Vous avez les noms des panélistes, visiblement.
Oui. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été un vrai débat, hein, justement parce que Médiamétrie a le monopole. Donc,
et on parle de sondage quand on parle d'audience. Voilà, l'estimation.
C'est vrai que normalement, il devrait y avoir plusieurs instituts de sondage sur les audiences.
Je crois qu'il y aura bientôt l'Institut Mireille Dumas qui vous accordera des 70% de parts de marché.
Il n'y a pas de raison.
Vous n'aurez pas besoin de ça, d'ailleurs. C'est ce que vous allez faire vendredi prochain. Bon, dans un instant, on va finir avec un blind test de générique télé. Est-ce que vous êtes fort à ça?
Alors non, pas du tout. Ça va être bien avec Jeanne.
Ouais.
Alors, je vous donne tous les points par avance.
Non, mais elle ne les aura pas non plus.
Peut-être pas toujours.
Mais vous allez voir en plus, vous allez découvrir le vrai visage de Jeanne pendant cette rubrique. Là aussi, il bat les masques. Elle aime gagner.
Ah, c'est une gagneuse.
Ouais. À tout de suite.
Et moi, je peux perdre sans problème.
Ah bah alors, on va s'entendre.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jeanne et Éric Dussart. On refait la télé sur RTL. Jukebox.
40 ans de télé pour Mireille Dumas. Ça se fête avec un livre, une émission spéciale sur France 3, mais aussi avec un quiz des génériques télé.
Pas 40 ans de générique. Hein.
Non, on va juste revenir 40 ans en arrière, justement. On va jouer avec l'année 1981 à la télé. Ça vous plaît, cette thématique, Jeanne?
J'aime beaucoup. Je vous remercie, Éric.
Je vous sens très optimiste.
Oui, elle a
déjà mis sa veste, elle va quitter le studio dans deux minutes. Bon, si vous étiez avec nous il y a deux minutes, vous l'aurez compris, apparemment, il y aura du niveau, puisque Mireille Dumas a dit qu'elle était nulle à ce petit jeu.
Nulle sur les génériques.
En même temps, là, c'est du très simple. Par exemple, ce premier point, vous allez l'avoir tout de suite, une série.
Ah bah oui, moi, je sais, là.
C'est déjà dit, c'est tout de suite dit.
Première diffusion en France, 24 janvier 81, sur TF1 Dallas, vous regardiez?
Oui, j'ai suivi, bien sûr.
Valérie Giscard d'Estaing aussi, après son départ de l'Elysée, c'est ce que sa fille vous avait expliqué dans l'émission.
Ouais, mais complètement. Il regardait Dallas alors qu'il était parti.
Dépité qu'il était d'avoir quitté l'Elysée.
Ouais, mais c'est surtout que son départ avait été, il était sous les huées. Enfin, il explique tout ça. Mais une organisation pour son départ qui avait été montée par, j'imagine, ceux qui étaient du bord opposé. Et donc, voilà, il l'avait assez mal.
Consolait avec l'histoire de la richissime famille Ewing au Texas. Ça, c'était Dallas. Une autre série française, mais là je pense que je suis sûr d'une chose, c'est que vous ne trouverez pas.
Ah bon? Ni moi?
Les auditeurs vont trouver, c'est sûr. Alors si je vous dis...
Attends, c'est Pause Café.
Bravo Jeanne, voilà, applaudissements. C'est vraiment pas évident celui-là.
Mais j'ai reconnu la voix de Véronique Jeannot.
Et qui était un peu la Mireille Dumas du lycée, hein, puisqu'elle aussi, elle écoutait toute la journée des confidences. Elle exerçait le métier d'assistante sociale. Bravo. Et parmi les élèves de ce lycée, plusieurs ont d'ailleurs fait depuis une jolie carrière. Hein. Marc Lavoine, Clovis Cornillac, Benoît Magimel et Élise Semoun. Ils avaient fait leur début dans Pause Café. On va continuer ce blind test spécial années 80 à la télé avec maintenant un célèbre présentateur des infos qui a fait ses adieux au journal de TF1 en 1981. On se souvient notamment de sa brillante explication du passage à l'heure d'été.
Que va-t-il se passer en fait ?
À Roger Gicquet.
Dimanche, quand vous dormirez à 1h du matin, il sera brusquement 2h du matin. Si vous regardez votre montre en dormant, vous aurez perdu 1 heure de sommeil, et si vous ne la regardez pas, ce sera comme d'habitude, ni plus ni moins. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la tante Berthe et l'oncle du cousin Isidore qui s'était marié en seconde noce avec le troisième enfant né d'un troisième lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien.
On pourrait plus faire des lancements pareils dans des JT, ce serait impossible.
Ben non, on se ferait virer d'ailleurs.
Ah bah oui,
beaucoup trop long. Il n'a pas été viré pour ça d'ailleurs, ou il n'est pas parti pour ça.
Il y avait eu la France a peur aussi.
La France a peur, la France, bien sûr.
La France avait aussi parfois peur devant cette émission en direct, lancée en 1981. Vous voyez que c'était une année riche à la télé. Hein. Dans cette émission, l'ambiance était parfois très houleuse. Ça commençait à chaque fois par ce générique fort entraînant.
C'est pas l'émission de Pollack ? Si, c'est Michel Pollack. Voilà. Ouais.
Vous l'avez doublé par la droite, là.
Alors c'est quoi, c'est moi qui ai dit en deux, hein, parce que moi j'ai dit Michel Pollack et il y a une
grande
réponse.
Vrai, complété, ouais.
On a...
C'était décembre 80, points. Le lancement sur TF1 de droit de réponse. C'était très convivial, ça finissait toujours en bagarre. Attention, voici le dernier générique de ce blind test spécial années 80 à la télé, avec un jeu qui était au sommet de sa gloire cette année-là. Je vais vous donner un indice qui va vous donner la réponse.
Ouais.
Ça se passait à 20h.
Bah, les 20h. Bah,
oui. Bravo, Mireille Dumas, les jeux de 20h.
Bien sûr. Les jeux de 20h, donc la province qui affronte Paris.
Ah bah vous regardez tous les soirs en fait, hein, si je comprends bien.
Mais non, mais c'est parce que je travaille pas mal sur les archives télévisées.
Les présentateurs, c'était, alors vous vous souvenez des jeux de 20h?
Bien sûr, c'était, comment ça s'appelle, Descombes.
Et évidemment, Maître
Capello.
Maître Capello.
Dillefranc dans Nourin. Jean-Pierre Descombes, cherchez son prénom.
Voilà. Oui, c'est vrai, il y avait Snourin qui remet Snourin. Ouais. Ouais. Et bah écoutez, là, moi je remets Dillefranc dans le Nourin pour rejouer peut-être, vous départager la semaine prochaine.
Parce que
là, on n'a plus le temps, mais vous êtes à égalité. Donc on vous applaudit toutes les deux.
Voilà. Mireille Dumas, merci beaucoup d'être venue refaire la télé avec nous. On vous regarde vendredi prochain à 21h sur France 3 pour redécouvrir le meilleur de vos entretiens dans les années télé de Mireille Dumas, quand les célébrités se confient. Et puis on vous lit aussi, Mireille, Rencontres inoubliables aux éditions du Cherche Midi, que vous pouvez gagner, chers auditeurs, dédicacés par Mireille Dumas, sur nos réseaux sociaux, compte Twitter et Instagram, dont refait la télé.
Merci beaucoup, Mireille Dumas. Ça s'est bien passé, parce que je sais que les intervieweurs n'aiment pas trop être interviewés, généralement.
Ah non, mais moi, je trouve ça très reposant, formidable. Au contraire.
Il n'y a qu'à se laisser faire.
Ah oui, exactement, il faut se laisser faire.
Ça vous a relaxé, en fait.
C'était voilà. Génial. C'était absolument génial. Et comme je sais que grâce à vous, il y aura 12 millions de téléspectateurs.
Ah, on avait dit 14. Vous avez perdu quelques-uns en route.
On est perdu flûte alors. Non, alors on monte avant.
On vous le souhaite.
La France entière.
Voilà.
Au moins ça.
Au moins ça.
Merci beaucoup, Jade.
Et de rien, ce fut un plaisir.
À samedi prochain, le replay de cette émission est sur l'appli RTL. Nos vidéos sur RTL.fr et tous les bonus des images coulisses de l'émission. Une arrivée de Mireille Dumas dans notre studio, mais façon Champs-Élysées.
Tout est filmé.
Vous pourrez trouver ça sur nos comptes Twitter et Instagram. On vous laisse avec le journal inattendu d'Anaïs Bouton qui reçoit aujourd'hui Bernard Lavillier. Bon week-end sur RTL. Ciao, ciao.
Salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.